Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, ce sont eux aussi les artisans de la lutte anti-mafia. En Italie, des prêtres locaux s'engagent contre le crime organisé, parfois au prix de leur vie. Dès les années 90, des prélats ont été assassinés par la mafia. Ils sont depuis devenus des figures de sacrifice et de résistance, commémorées par les Italiens. Reportage à Casal di Principe, ancienne capitale du crime organisé au nord de Naples, signé Blandine.
Alors nous sommes devant l'église San Nicola di Bari où les habitants commencent à arriver pour une célébration. C'est dans cette église moderne qu'a été assassiné il y a tout juste 30 ans le prêtre Don Beppe Diana, un des premiers prêtres tués en Italie par la mafia. Lui a été tué par la Camorra, la mafia napolitaine, par le clan local des mafieux dans la sacristie juste avant de célébrer la messe.
Un prêtre tué dans son église, on n'avait jamais vu ça ici. Nous on était gamins, ça nous a marqué à vie.
La nostra vita.
À Casal di Principe, ancienne capitale du crime au nord de Naples, ce jour-là, de toute l'Italie, ils sont des milliers, comme chaque année, à s'être rassemblés en la mémoire du jeune prêtre Don Beppe, assassiné de 5 balles à bout portant.
Don Beppe est une figure fondamentale. Avec son martyr, il a réveillé tout le pays et ouvert les yeux sur la violence de la Camorra chez nous.
La renaissance, la force, le courage, c'est ce qu'il représente pour nous. Il disait « Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai pas ». Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est dans ses habits d'homme d'église que ce trentenaire, actif et dénonciateur, représentait une menace, se souvient Salvatore Cuoci, qui a créé un comité anti-mafia en son nom.
Il comptait sur la force de la soutane, il disait « J'ai un col romain, qu'est-ce qu'ils peuvent bien me faire ?» Et nous aussi, on croyait que c'était une vraie barrière. Bien au contraire, il venait de tuer un premier prêtre 6 mois avant à Palerme. Et ici, il le tue à l'intérieur de l'église. Ça voulait dire avoir dépassé toute limite, un mépris de tout, et qu'ils avaient peur de ce prêtre, qui avait commencé à recueillir les jeunes et les sortir de la rue. Les prêtres, c'est une armée d'éducateurs qui leur fait très peur, parce que ce sont ceux qui parlent à ta conscience.
Même si le Vatican et la hiérarchie ecclésiale ont entretenu des liaisons parfois dangereuses avec les mafias, l'Église italienne, elle, veut les combattre avec ses prêtres, figures de référence très ancrées au niveau local, engagées sur le terrain, qui offrent des alternatives à la criminalité. C'est cette voie concurrente que veulent museler les mafieux.
En tuant un prêtre, la Camorra commet un acte public contre la communauté locale qu'il représente, contre l'Église, contre la foi. Sauf que ce qui devait être un acte radical pour faire taire définitivement l'Église est devenu un point de départ qui, au contraire, a réveillé un peuple entier qui ose parler et se rebeller.
Depuis ses premiers assassinats de prêtres en Sicile, puis ici en Campanie dans les années 90, l'Église locale s'engage toujours plus contre la mafia, et ce malgré la pression des clans.
Comme prêtres, nous voulons être aux côtés des jeunes, des anciens, des familles, pour que chacun puisse s'en sortir, avoir un emploi. Mais dans les territoires difficiles comme ici, il faut qu'on se batte et qu'on s'implique d'autant plus. Car la pauvreté, c'est la voie royale pour entrer dans les organisations mafieuses.
Depuis ses premiers assassinats de prêtres en Sicile, puis ici en Campanie dans les années 90, l'église locale s'engage toujours plus contre la mafia, et ce malgré la pression des clans.
Chez nous, dans ma paroisse, ce n'est plus vraiment des intimidations directes qu'on subit, mais très souvent des demandes de conseils, des approches. On est soumis à des pressions pour avoir des faveurs. Il y a toujours un climat camorriste contre lequel on doit rester très vigilant et ne jamais baisser la garde.
Menaces et intimidations contre les religieux se sont d'ailleurs multipliées ces derniers mois dans le sud de la Botte. Une agression physique d'un célébrant, un chat mort sur le capot de la voiture d'un prêtre ou un véhicule incendié. Et dernier épisode en date, le vin de messe empoisonné à la Javel, en Calabre. C'est cette rébellion et les sacrifices de ces prêtres anti-mafia comme Don Pepe Diana qui ont inspiré le combat de la société civile. Une lutte main dans la main avec l'Église, insiste Fabio De Gemis, de l'antenne napolitaine de l'association anti-mafia Libera.
L'Église est fondamentale en réalité, parce que c'est l'institution qui prend soin des gens et les rassemble. Il y a une communauté qui se forme autour de chaque paroisse en Italie. Dans ce territoire extrêmement réfractaire, le prêtre tué ici était doué pour impliquer les jeunes avec des activités qui ne sont pas propres à l'Église, en fait. Il les emmenait au stade, voire Maradona. C'est ça qu'il nous a enseigné. Donc aujourd'hui, on s'occupe aussi des jeunes de compagnie, en essayant, comme lui, de transmettre les valeurs de la légalité en partant de ce qui les passionne.
Camorra, Andrangheta, Cosa Nostra, Mafia Foggiana, tutto. Il male si chiama per nome, non è qualcosa di generico.
En Italie, c'est d'ailleurs un religieux qui incarne cette lutte citoyenne contre la criminalité organisée. Don Luigi Ciotti, figure centrale, à la tête du plus gros réseau national d'associations anti-mafia de la botte depuis 3 décennies.
Attention, il ne faut pas croire que le combat est gagné. Les mafias tuent moins, font moins de bruit, mais elles sont plus fortes qu'avant. Excusez-moi, mais ça fait 150 ans qu'on parle de mafia. Ça ne suffit pas de couper les mauvaises herbes en surface. Le défi est culturel, éducatif et social.
Menacé de mort par les clans siciliens, Luigi Ciotti est toujours entouré de ses escortes. Presque 80 ans, mais la détermination d'un jeune militant et l'énergie d'un leader, infatigable, sur la scène, l'homme d'église galvanise la foule réunie cette année à Rome pour la journée nationale instituée par ce prêtre en mémoire des victimes du crime organisé en Italie.
Antonino Burrafato, Salvatore Nuvoletta,
Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli.
Un reportage signé Blandine Hugonnet.
Acabei o curso, comecei a trabalhar. Conselho dos meus pais, matei-me a estudar. Ordenado base, 1200 pau. Não está nada mal, pouca malta anda a ganhar. Comecei a procurar uma casa para arrendar. Um pequeno apartamento, só para mim pode ser pequeno. Afastado ou no centro, no OLX. Os preços que eu vi, até me cuspi. 1800, um T1 em Lisboa. Precisa de 1000 obras, já lá mora uma pessoa. Aumento o rei até brandou. Até 2 é mau estado, menos 1000 é na Amador.
Causé par des taux d'intérêt qui ont bondi, des prix toujours trop hauts et le manque de nouvelles constructions, à Lisbonne, au Portugal, les prix à la location ont bondi de 50% en 3 ans et deviennent inaccessibles, si bien que des campements improvisés font leur apparition. Les exclus de l'immobilier y dorment dans des tentes. Marilyn Darcy s'est rendue dans l'un d'eux à 20 km de la capitale, près de l'océan.
La mer qu'on aperçoit au loin et la forêt de pins en bordure pourraient faire croire à un décor idyllique. Dans la réalité, le domaine des Ingleses abrite un campement de fortune. C'est là que s'est installée Andrea, immigrée brésilienne, qui refuse de consacrer 50% de ses revenus à la location d'une chambre.
Au début, je payais 200 euros, c'est passé à 300, puis à 400. Quand j'ai découvert le campement, il n'y avait que 3 tentes. Aujourd'hui, 35. En m'installant ici, j'ai économisé les 400 euros de loyer et j'ai pu acheter cette caravane-là. Je me suis mieux installée avec une cuisine, une douche, une tente plus confortable. La plupart des gens qui viennent ici n'ont pas de stratégie future. Ils sont victimes de la situation. Leur salaire ne leur permet pas de payer un logement. Moi, j'ai décidé de tuer le monstre des loyers élevés.
Andrea alerte sur la situation qui se dégrade et l'augmentation du nombre de ceux qu'il est désormais admis d'appeler les nouveaux sans-abri, des gens qui travaillent mais ne peuvent pas se loger.
Un studio à Lisbonne, c'est 600, 700 euros. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas que le loyer. Il y a les courses, les impôts, et c'est loin d'être anodin. Je connais une femme qui cumule 2 emplois. Elle est au bord de la dépression. Elle loue une chambre où elle ne va que pour dormir. Mais ce n'est pas facile quand tu partages un espace. Tu veux te reposer, mais les gens discutent à côté. Alors ce n'est pas juste un problème de logement. Ça affecte le psychisme et la dignité.
À l'heure de la visite du camp, ceux qui travaillent ne sont pas rentrés, sauf Andrea. Les campeurs savent qu'ils vont bientôt être expulsés. Le terrain va devenir résidence de luxe. Andrea espère louer un autre terrain et y installer ceux qui pourront.
La propriétaire a voulu récupérer l'appartement de ma tante à sa mort. Je vivais là. Je pense qu'elle veut faire des travaux et augmenter le loyer pour vendre ou louer, je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de venir ici. Une expérience nouvelle. Je ne trouve pas de travail, sans doute mon âge. Je touche le RSA, 200 euros et quelques par mois.
La crise de l'hébergement touche toutes sortes de gens. Dans le centre de Lisbonne, la petite épicerie de Laurence et de son mari, installée dans le quartier de Graça depuis 5 ans, va fermer ses portes. Trop cher, pas rentable. Laurence.
Le loyer a augmenté, qui fait qu'en fait maintenant on ne va plus y arriver. On était à 1300, on passe à 1500. Donc nous, 200 euros de charge sur une petite épicerie, c'est beaucoup. C'est l'augmentation légale, en fait. Il y a une augmentation de 7% qui est autorisée. Donc si tous les ans on a 7% et tous les ans on a 150 à 200 euros d'augmentation, nous, on arrête parce qu'on anticipe l'échec de notre commerce.
Le gouvernement a fixé à 7% l'augmentation des taux locatifs pour 2024. Appliquer ce taux à des loyers déjà élevés pèse lourd sur les revenus. Pour l'historienne du travail Raquel Varela de l'Université de Lisbonne, le Portugal est entré dans l'ère de l'assistanat.
On a des travailleurs contraints de se rendre aux banques alimentaires pour réclamer de la nourriture, demander de l'aide pour payer le loyer, faire des déclarations de pauvreté pour que leurs enfants puissent bénéficier de la cantine scolaire. Ce ne sont pas des demandeurs d'emploi, mais des travailleurs. Et les gens voient bien que leurs efforts ne permettent pas de maintenir les conditions minimum de dignité.
Les nombreuses enquêtes réalisées par l'Observatoire des conditions de travail auxquelles collabore Raquel Varela mettent en évidence les stratégies de la classe bourgeoise pour continuer à exister. Raquel Varela.
La stratégie de cette classe sociale pour se maintenir dans la compétition au niveau mondial a consisté à vendre le territoire, c'est-à-dire le bâti, à des investisseurs étrangers, mais aussi à miser sur le tourisme. Nous considérons que la bourgeoisie portugaise est une sorte de protectorat dont la stratégie est tournée vers ce que nous, chercheurs, nous appelons l'obsolescence programmée de la force du travail.
Des 26 000 HLM qui doivent être construits d'ici à 2026 avec l'aide des fonds européens, seuls 1 500 logements sont sortis de terre. La tâche sera difficile pour le nouveau gouvernement qui prend ses fonctions ce mardi.
Aux Pays-Bas, un des pays les plus densément peuplés d'Europe, on estime qu'il manque 400 000 logements, une pénurie qui a été largement exploitée par l'extrême droite populiste lors des dernières élections. Les explications de Laure Broulard.
Pas assez de logements et des logements trop chers. Voilà le double problème du marché immobilier néerlandais. Il faut gagner en moyenne plus de 80 000 euros par an, soit 2 fois le revenu médian pour accéder à la propriété aux Pays-Bas. La tension touche également le marché locatif, mais aussi le secteur du logement social. Comptez 13 ans d'attente en moyenne pour en obtenir un à Amsterdam. La ville compterait ainsi 3 000 sans-abri économiques, c'est-à-dire des personnes qui ont un travail mais qui ne parviennent tout de même pas à se loger. La crise de l'immobilier a donc été, avec l'immigration, un thème central de la campagne pour les législatives de novembre dernier, thème notamment exploité par le PVV, le parti d'extrême droite de Geert Wilders, chantre de la préférence nationale qui a remporté le scrutin et qui a fait des réfugiés les principaux responsables de la pénurie de l'eau. Une affirmation battue en brèche par le rapporteur de l'ONU pour le logement convenable. Lors d'une visite aux Pays-Bas en décembre dernier, Balakrishnan Rajagopal a plutôt pointé du doigt des politiques publiques qui ont fait du secteur privé le principal fournisseur de logements à la place du gouvernement. Avant la chute de sa coalition, en juillet dernier, l'ancien Premier ministre Mark Rutte avait promis la construction de 900 000 logements et voulait instaurer un système sanctionnant avec de lourdes amendes les propriétaires exigeant des loyers jugés excessifs. Reste à savoir ce qu'il restera de ces projets alors que les tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement se poursuivent à La Haye.
Au Royaume-Uni, les plus jeunes ne peuvent plus accéder à la propriété. Il faut donc protéger leurs droits en tant que locataires. Le gouvernement conservateur avait promis d'interdire les expulsions arbitraires, mais le projet patine, Marie Billon.
Les conservateurs s'étaient engagés à protéger les locataires contre des expulsions arbitraires. Il n'aurait donc plus été possible de demander à ses occupants de partir pour augmenter le loyer, par exemple. La loi est pourtant très souple, il n'y a pas de plafond pour ces augmentations, mais expulser les locataires permet d'éviter les négociations ou tout simplement d'avoir le dernier mot. Actuellement, les propriétaires peuvent se débarrasser de leurs occupants sans justification à la fin de leur contrat ou bien à n'importe quel moment si le bail est devenu rolling, c'est-à-dire s'il n'y a plus de date de fin précisée. Les propriétaires n'ont alors qu'à donner un préavis de 2 mois et n'ont pas à justifier leur décision. Pour réduire la précarité des locataires et leur assurer de la stabilité, les conservateurs avaient promis d'abolir cette disposition, appelée la section 21. Mais le mois dernier, le gouvernement a fait savoir qu'il allait d'abord demander un avis juridique aux tribunaux, une manière de différer la décision, alors que les élections générales peuvent être organisées à tout moment. Au plus bas dans les sondages, les touristes ne veulent pas se mettre à dos une partie de leur électorat traditionnel, les propriétaires. Les associations de locataires y voient la preuve que le gouvernement veut revenir sur sa parole et cette parole compte dans un pays où les nouveaux propriétaires sont de plus en plus rares. La hausse des taux d'intérêt depuis 2002 a encore plus réduit les possibilités d'achat pour les plus jeunes, déjà appelée la Generation Rent, génération des locataires. Les salaires des 20-30 ans ne suffisant pas pour remplir les critères permettant un achat, ne serait-ce parfois que la compte. Selon l'agence Hamptons, le nombre de locataires a augmenté de 25% en 13 ans. À plus long terme, cette réforme du droit immobilier est très critiquée par les propriétaires. Ils préféreraient pour certains vendre plutôt que de louer avec les mains liées, selon les associations, réduisant encore plus le parc locatif. Our Taoiseach's kind and gentle, and he drives the women mental. Everybody wants to meet him just to shake his hand. With Michelle and Ring and Jono, he's more popular than Bono. Everybody gathers around him just to see his five-point plan. Il sera bientôt le prochain Premier ministre irlandais. Après la démission surprise de Leo Varadkar, Simon Harris a été désigné à la tête de son parti de centre droit, le Fine Gael, et deviendra donc automatiquement le chef du gouvernement. Un parcours fulgurant pour cet ex-ministre de l'enseignement supérieur qui soigne sa com sur les réseaux, à tel point, Anastasia Becchio, qu'on l'a surnommé TikTok Taoiseach.
Taoiseach, c'est le titre officiel du Premier ministre en Irlande et TikTok, c'est le réseau social sur lequel il compte plus de 95 000 abonnés. Simon Harris est le ministre qui communique le plus, mais son positionnement est difficile à cerner selon le politologue Owen O'Malley.
Lorsqu'il a fait campagne pour son premier mandat au Parlement, c'était un conservateur pro-vie. Lorsqu'il est devenu ministre de la Santé, il a présenté la loi qui abrogeait les amendements qui interdisaient l'avortement. On peut dire qu'il n'a pas de ligne claire. Est-ce un conservateur, un libéral? Il donne le sentiment qu'il pourrait défendre l'idée qui lui apportera le plus de j'aime sur Twitter ou sur TikTok.
À peine désigné à la tête de son parti, le Fine Gael, Simon Harris s'est évidemment adressé à ses abonnés sur TikTok.
Je veux que vous sachiez que si j'ai l'honneur de servir, je vais travailler jour et nuit, nuit et jour, pour agir pour ce pays et faire tout ce que je peux pour m'assurer que la politique réponde aux attentes des gens. Je sais que la politique peut faire la différence.
Élu local à 22 ans, député à 24, secrétaire d'État aux finances à 27 ans et ministre de la Santé 2 ans plus tard, en pleine épidémie de Covid-19, il apparaît quasi quotidiennement à la télévision. Il est aussi critiqué pour le nombre de décès dans les maisons de retraite, enchaîne gaffes et scandales. Il hérite ensuite du portefeuille de l'enseignement supérieur, un poste moins exigeant qui lui permet de nouer des relations bien utiles. Owen O'Malley.
Il a mis à profit ce temps pour voyager à travers le pays, visiter des bureaux locaux du Fine Gael, pour s'y faire des amis. Lorsque Leo Varadkar a annoncé sa démission surprise, Harris était déjà plus ou moins prêt. Il avait déjà prévu ce qu'il allait faire. Les autres ont été plus lents à réagir et c'est pour ça qu'Harris avait quasiment gagné avant même que la course à la succession du Premier ministre n'ait vraiment débuté.
À 37 ans, Simon Harris s'apprête donc à devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire de l'Irlande. Merci, Anastasia Becchio. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur l'application Pure Radio. À demain.